Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
La ville de Fos-sur-Mer, de Port-Saint-Louis-du-Rhône et toute la région qui borde l'étang de Berre concentrent la plus grande zone industrielle de France et une des plus importantes d'Europe. 200 usines y emploient 40 000 personnes environ, dans la pétrochimie, la métallurgie, le traitement des déchets, la raffinerie. Il y a aussi une énorme aciérie, de la chimie, des dépôts de gaz et bien d'autres industries dites lourdes. Parmi celles-ci, une trentaine de sites officiellement classés Céveso, c'est-à-dire potentiellement dangereuses. Comme on l'entendait hier dans Les Pieds sur Terre et dans le premier volet de cette mini-série, à Fos, les habitants semblent vivre comme dans un roman d'anticipation catastrophiste. Des plus jeunes aux plus âgés, directement ou indirectement, en personne ou dans leur entourage, tous sont frappés par des maladies de plus en plus étranges par leur fréquence et leur nature. Longtemps, le lien entre ces pathologies et les pollutions industrielles fut un sujet tabou, balayé par le Mistral, comme l'étaient, pensait-on, les fumées et autres particules plus ou moins fines. Petit à petit, grâce à des actions citoyennes uniquement, des données précises ont commencé à apparaître. Des mesures indépendantes de l'air ont été faites. Jusqu'en 2015, où Barbara Allen, une sociologue américaine, a dirigé une enquête systématique, en partie financée par l'État cette fois. Ses conclusions, publiées cette année en 2017, sont accablantes, précises et concordantes. On y découvre notamment qu'à Fos, 63% des habitants souffrent d'une maladie chronique, qu'ils sont deux fois plus touchés par le cancer que dans le reste du pays et qu'il y a là deux fois plus de diabétiques et quatre fois plus de maladies respiratoires qu'ailleurs dans notre riant hexagone. Après avoir rencontré hier Sylvie et Sandrine, directement touchées, nous avons voulu comprendre aujourd'hui comment on avait pu négliger de faire le lien entre la pollution et les pathologies pendant si longtemps, et ce que les autorités avaient décidé, désormais, pour protéger les habitants de la région. Jacques est bijoutier, il a grandi à Port-Saint-Louis-du-Rhône, près de Fos. Dans les années 70, il a vu les usines envahir peu à peu l'espace, jusque derrière sa maison. C'est avec lui que Pascal Pascariello commence le deuxième volet de son enquête. Il est un des premiers à s'être mobilisé, comme on l'entend jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai vu arriver toutes ces usines, donc les fumées qui s'en échappent, les bateaux qui arrivent avec les fumées aussi. C'est noirâtre, fait dedans, on voit bien qu'il y a des particules, quoi, et on voit bien que c'est quand même... Puis bon, c'est tous les jours, en permanence, quoi. Puis ça va dans la terre, ça va dans l'eau, sur les végétaux, ça va partout, quoi. Et là, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait aussi une problématique santé qui se greffait en plus de la destruction de notre environnement, quoi. Donc j'ai commencé moi à me poser des questions et à me dire bon, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, quoi. On peut pas être le dépôt d'ordures de tout le sud, quoi. Donc j'ai commencé à en discuter avec des copains d'enfance, quoi, comme on fait chaque fois lorsqu'on veut créer une association. Et effectivement, on s'est aperçu qu'on était nombreux à avoir la même problématique. Et donc c'est à partir de là que vraiment on a structuré dans une association, on a structuré toute cette lutte, quoi. Moi, je suis commerçant, donc je suis un témoin un peu privilégié peut-être pour discuter avec la population. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait des énormes problèmes de santé sur la population locale. Hein. Dans ma rue, j'ai une copine d'enfance qui avait perdu son père d'un cancer, sa sœur, son frère aussi, et puis elle-même a été victime d'un cancer de l'utérus. Donc voilà, ça marque quand même des choses comme ça. Et on voyait partir des gens de plus en plus jeunes, quoi. Des gens qui, normalement... mourir à cette époque-là, allez, on va dire dans les 75 ans, ben nous ça commençait à partir de 50, et puis même plus tard on a vu même des nouveau-nés touchés par la maladie, donc voilà, c'est dur quand même de voir ces drames au jour le jour, quoi. J'ai eu un enfant aussi à 24 ans, donc ça fait peur, quoi. Donc je me dis, il faut peut-être qu'on nous apporte des réponses là-dessus. Et donc c'est au tout début des années 2000 où vraiment je demande un petit peu à droite à gauche des renseignements. Donc je commence à questionner les services de santé. Les médecins qui eux-mêmes visiblement voient bien ce problème mais ne m'apportent pas les réponses, quoi. Et donc je commence à questionner les élus, je demande à ce que on nous transmette des dossiers, par exemple le registre du cancer, s'il y a eu des études sur la santé des habitants de ma ville, et voilà, puis on s'aperçoit que on n'a pas de réponse, quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a rien qui a été fait? Est-ce qu'on ne veut pas nous communiquer ces résultats? Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle, parce qu'on sait très bien qu'il y a des registres de cancer partout en France, qu'il y a des études qui sont menées, et donc il doit y en avoir sur notre région, d'autant plus qu'elle est hyper industrialisée. Donc, c'est le constat qui m'amène, avec l'aide d'un collectif, de demander des comptes, quoi.
Le collectif est créé au début des années 2000. Il regroupe des associations de plusieurs villes de la zone. Plus de 3000 habitants adhèrent alors à ce collectif.
On a interpellé dans le service de l'État, donc, qui s'occupe de la santé, donc la DRAS, et on n'a pas eu de réponse. Donc on a décidé d'aller sur place et leur demander les réponses sur place. Nous sommes allés dans les locaux, on s'est mis sur une terrasse, et on a demandé à être reçus simplement par un directeur. Et au bout de quelques temps, donc peut-être plus d'une heure, une heure et demie, on a vu arriver un des deux directeurs. Et on lui a dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est des réponses claires sur toutes les maladies qui sont dues à la pollution de zones comme la nôtre. Et malheureusement, au bout de demi-heure, son téléphone a sonné. Il a disparu au moment. Quand il est revenu, il était devenu tout blanc. Il avait été appelé par le préfet et le préfet lui avait donné l'ordre d'absolument plus communiquer avec nous. Et donc, le directeur nous en a fait part et il est parti. Nous sommes retournés sur notre balcon jusqu'à ce que les forces de police, donc les fameux Robocop que l'on voit à la télé, qui normalement sont là pour des terroristes, quoi, donc viennent nous déloger. Enfin, quand on voit arriver donc, les CRS, ça amplifie encore le doute que l'on a. Je me dis, on est sûrement dans le vrai, quoi, parce que si c'était si simple, s'il n'y avait pas de soucis, ça aurait été très simple pour eux de communiquer, de nous donner des renseignements. Et donc, plus le doute s'amplifie, puis plus on a envie d'agir. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, il faut encore agir plus fortement. En continuant donc à chercher des solutions, c'est le préfet quand même qui est, il a beau pas vouloir nous répondre, c'est quand même lui qui est censé nous protéger donc des pollutions des usines, qui est censé mettre des normes pour les usines, et donc il faut continuer à l'interpeller. Celui-ci, au bout de quelques années, donc à la suite de nos découvertes, il fait faire une étude sur notre région assez restreinte, Fosse, Port-Saint-Louis. Ils ont travaillé de cette manière, ils ont commencé à prendre usine par usine les rejets, et puis de démontrer que chaque usine était aux normes, quoi. Alors que on n'a jamais pris l'intégralité des rejets dans un ensemble d'usines. Donc c'est un peu surprenant. Alors on nous a répondu, vous voyez, toutes les usines sont aux normes, donc il n'y a pas de souci. Donc on se dit, on nous prend encore là pour des cons, moi je me suis senti encore plus trahi, quoi, de la part du préfet. Donc j'ai demandé, moi, à voir l'étude dans son ensemble, parce qu'on vous donne toujours des résumés d'études. Et je m'aperçois que dans l'étude, il était considéré que tous les gens de mon quartier n'habitaient que 6 mois par an chez eux et 12 heures par jour. Alors que moi, c'est ma maison principale, je vis là, je vis pas ailleurs. 12 mois de l'année, j'y suis, donc pas 6, et j'y suis toute la journée. Lorsque je m'en vais au boulot, je suis qu'à quelques kilomètres, donc ça va pas changer grand-chose. Mais donc voilà, ça permet de diminuer l'impact que j'aurais pu recevoir. Voilà, c'est effrayant, c'est effrayant. On se sent vraiment méprisé complètement de la part de l'État, quoi. Puisque moi, je suis un citoyen comme un autre, j'ai pas à être plus malade qu'un autre, j'ai pas fait un gamin pour qu'il meure plus tôt que les autres. On est méprisé, quoi. Pour moi, c'est du mépris, c'est du mépris. À force quand même d'avoir des contacts parmi les gens qui nous soutenaient, j'avais réussi à avoir des données de l'INSERM, de l'Institut National de Recherche. C'était des données vraiment sur le nombre de cancers qu'il y avait en plus sur ma ville par rapport aux Bouches-du-Rhône, les maladies respiratoires, les cancers de vessie, en fait, toutes ces données-là, je les ai donc condensées dans ce tableau. Alors sur les tumeurs, par exemple, ben pour ma ville, j'étais à plus 106% de tumeurs par rapport aux Bouches-du-Rhône. On nous cache ça. C'est là qu'on s'aperçoit que pour avoir des données comme ça qui sont qu'on a eues quelque part illégalement, hein, on s'aperçoit qu'il y a des gens, que ce soit chez les médecins, que ce soit des chercheurs, qui ont exactement la même inquiétude que nous, mais qui ne peuvent pas s'exprimer. Et donc leur seule manière de pouvoir s'exprimer, ça a été de nous transmettre ces données pour qu'on les traite nous. Ils sont aussi bridés, quoi. Donc s'ils sortent des études qui ne plaisent pas, il y a de fortes chances qu'ils aillent pas loin, quoi, dans leur métier, quoi. Je ne peux qu'avoir peur sur le résultat de cette pollution sur mon organisme. Donc je suis bien certain que ou j'ai de la chance, et puis, bon, mais comme certains qui ont fumé toute leur vie ne sont jamais malades, je passe à travers, ou malheureusement, ce qui se passe, ce qui s'est passé sur énormément de mes copains d'école, hein, j'en ai perdu déjà pas mal, voilà, 59 ans, ils sont déjà partis, il y en a depuis plus de 10 ans, quoi. Donc, voilà, je me dis, est-ce que je profiterai le jour de ma retraite, que je n'ai pas encore, ou est-ce que je vais mourir avant, voilà, j'y pense, et bon, mais ça assombrit un petit peu ma joie de vivre que j'avais jusqu'à maintenant. Ça ne sert à rien de continuer à faire des études. Maintenant, il nous faut des réponses. Il faut qu'on trouve des solutions. La solution, c'est quand même la diminution de la pollution de la zone. Parce que je veux pouvoir vivre chez moi d'une manière convenable. C'est criminel qu'on n'ait pas de réponse.
Pour mener ce combat, Jacques est aidé par le docteur Vincent Bezin.
Bonjour.
Bonjour.
Qui vérifie, analyse les documents trouvés au gré des recherches. C'est un des rares médecins à soutenir les habitants et les associations. Je le retrouve dans sa maison près du port.
Donc je suis arrivé de Grenoble en 2001 et je me suis installé ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Au bout de 6 mois, j'étais tout à fait interpellé par la fréquence des maladies graves qui s'y trouvaient, puisque j'avais même employé la formule « c'est curieux, toutes les maladies rares se sont données rendez-vous dans la salle d'attente ». Alors j'avais été interpellé par le nombre de diabètes de type 1 de l'enfant, et j'avais été interpellé également par les cancers dont le nombre et surtout la fulgurance m'impressionnaient beaucoup. Et puis j'avais aussi été étonné par le fait que les accidents cardiovasculaires dans la population ici se produisent beaucoup plus tôt que dans une autre population. C'est-à-dire au lieu d'avoir son infarctus entre 50 et 60, ben ici on peut l'avoir entre 30 et 40. C'est vraiment très choquant. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à raisonner sur une maladie de l'environnement. Quelque chose dans l'environnement générait ce surcroît de pathologies graves. L'histoire type, c'est quelqu'un qui commence par une maladie auto-immune dont on ne comprend pas très bien le début. Alors ça peut être des phlébites placées un peu n'importe où sur le corps. Ce sont les veines qui se bouchent. Chez un jeune homme sportif d'à peine 40 ans, trouver une phlébite du biceps, je trouve ça très étonnant, très inhabituel. Et cette même personne, un peu plus tard, développe un lupus, c'est-à-dire une maladie avec des taches de la peau et des troubles de médecine interne. Et puis, un peu plus tard, survient un cancer. Toute cette séquence que je vous décris là, elle se déroule en 1 an et demi. C'est extrêmement peu. Et donc, on voit un homme jeune qui n'a aucune mauvaise hygiène, il ne fume pas, il ne boit pas, il est sportif, il travaille bien, il est parfait, eh bien on est très très frappé. Et lui, il a eu de la chance, je dirais, parce qu'il a survécu à tout ce que je vous ai décrit, plus un autre cancer dont il s'est remis également. Donc on a réussi à le tirer d'affaire, on peut dire 3-4 fois de suite, mais d'autres n'ont pas eu cette chance et on a perdu beaucoup beaucoup de patients dans les quelques mois qui suivaient la découverte de la maladie. À partir du moment où on est sûr qu'il y a quelque chose dans l'air, on se tourne sur l'environnement tel qu'il est ici et on est bien obligé de constater que, comme on est sur la plus grande zone industrielle de France, il y a effectivement des particules industrielles dans l'air de toute nature. Il y a un cocktail chimique absolument extraordinaire dans l'atmosphère ambiante. Certains jours, le matin, quand il n'y a pas eu trop de vent, on ouvre toute la ville sans la station-service. Hein, donc c'est inutile de dire qu'il y a des hydrocarbures dans l'air, hein, c'est évident. Une fois que j'ai eu élaboré le concept de maladie liée à l'environnement, à ce moment-là, j'ai répondu positivement à des associations ou à des militants et j'ai pris la parole publiquement dans ces assemblées. J'ai aussi pris la parole publiquement à des assemblées qui étaient organisées par les maires de la région, parce que la question de santé revenait vraiment très souvent. Les industriels expliquaient que leur fumée était bien protégée, qu'elles étaient filtrées, que le Mistral emportait loin les poussières, les fumées, etc. Et rien de tout ça n'est vrai, bien sûr. Il s'est trouvé un préfet de la région PACA pour dire que la pollution principale, c'était les barbecues que les gens faisaient l'été. Parmi les énormités qui ont été dites par des représentants de l'État. Quand on prend la parole publiquement, surtout sur un sujet de santé publique comme ceci, on se heurte d'emblée dans les réunions à des levées de boucliers absolument énormes et avec toutes sortes de tentatives d'intimidation, interpellation de la clientèle, leur suggérant d'éventuellement choisir d'autres médecins. 250 fois, on m'a appelé pour me demander de quitter la région, on m'a appelé pour me dire que ma vie ne serait plus très longue et des choses comme ça. Donc un beau jour, l'ancien maire de la ville m'avait dit que je devrais porter un gilet parce que je devais faire attention.
Un gilet pare-balles, hein ?
Oui, c'est exactement ce qui m'a été dit. Alors que, venu de la bouche du maire lui-même, là, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui y pensent sérieusement. Enfin, ça, je l'ai tué à ma famille. C'était un secret un peu lourd à porter. J'ai trouvé ça très, très désagréable. Mais maintenant que la vérité a éclaté de partout, j'ai plus ce genre d'ennui, parce que la vérité me protège. Donc je suis tranquille maintenant, je suis de nouveau serein. Quand on est sur une zone géographique dont on peut penser que l'environnement est modifié par une très importante zone industrielle, on se doit d'ouvrir un registre toute pathologie. Et simplement, on note tout et au bout de 5 ou 10 ans, on se rend compte statistiquement que quelque chose ne va pas. On peut créer des liens de cause à effet et on peut commencer à soigner efficacement, on peut demander aux industriels de modifier un process. Et tout ça aurait dû être fait, non pas il y a 10 ans, ni 20, mais il y a 40 ans, quand on a décidé une pareille planification. Donc c'est simplement que pendant ce temps-là, on a ignoré délibérément, pour faire des économies, pour je ne sais quoi d'autre. La seule chose, c'est qu'on a véritablement méprisé la santé des gens qu'on a fait venir travailler ici et qu'on a mis en danger, je dirais presque délibérément. Et ça m'a écœuré très très franchement. Le mensonge d'État est tout le problème ici. La négligence de l'État est coupable parce que volontaire. C'est-à-dire que quand on est aux commandes d'un État et qu'on reçoit des informations diverses et variées, on connaît les situations. On peut pas dire qu'on les connaît pas, on les connaît même en profondeur. Simplement, des gens à ce moment-là peuvent faire des choix, le choix d'omettre purement et simplement ou de faire déni sur une population. Et ça, c'est vraiment coupable. Ça, c'est pas respectueux d'une démocratie moderne. Dans une démocratie moderne, on s'occupe et on prend soin de tout le monde. C'est tout.
En écoutant le docteur Bezin, Je me dis qu'il est urgent de rencontrer les élus de la région pour connaître leur position dans cette affaire.
J'ai rendez-vous avec monsieur le maire.
Le maire de Fos, René Raimondi, a accepté de me recevoir. Au début des années 2000, l'installation d'un incinérateur de déchets et d'un terminal méthanier, en gros des énormes cuves pour stocker le gaz qui ont été posées sur la plage de Fos, ont été l'élément déclencheur de la colère des habitants et des élus.
Allez, merci.
Bonjour.
Bonjour.
Lorsqu'on a commencé à se battre contre l'incinérateur en disant on est opposé parce qu'il va y avoir des émissions de dioxines, ça provoque des cancers. À partir de là, l'État nous a dit effectivement que l'incinérateur ne sera pas un gros danger compte tenu de ce que on rejette déjà sur cette zone. On a commencé à s'interroger et à se dire, bon, ok, on nous dit ça, mais finalement, qu'est-ce qui est rejeté sur cette zone? Et voilà, on a commencé à monter de grosses conférences avec des cancérologues, avec des spécialistes de l'atmosphère. À partir de là, on a commencé à interroger les services concernés. À l'époque, c'était la DAS.
La DRAS, c'est la Direction Régionale des Affaires Sanitaires.
Quand on a commencé à les interpeller en leur demandant le registre du cancer, on s'est retrouvé face à une fin de non-recevoir en nous disant que le livre du cancer n'existait pas et qu'il était impossible de pouvoir aller chercher des statistiques, même dans les documents de la Sécurité sociale. Voilà. Donc, à partir de là, on s'est dit que on nous cachait des choses. Donc, on a décidé à cette époque-là, les élus, de créer un institut, l'Institut éco-citoyen de connaissance des pollutions, pour pouvoir analyser de manière plus fine tout ce qui nous était présenté.
C'est là que je me rends compte que même le maire de Fos a été obligé de créer un institut indépendant de l'État pour pouvoir mener ses propres études de santé et d'environnement. Je comprends à quel point le maire de Fos n'est plus décisionnaire face aux enjeux économiques de ce territoire.
Depuis que je suis maire, je suis allé de désillusion en désillusion. On a classé l'incinérateur co-générateur, donc producteur d'électricité, donc c'est plus le maire qui signe le permis, c'est le préfet. On place le terminal méthanier, ah ça c'est approvisionnement énergétique, c'est défense nationale, c'est le préfet. Petit à petit, on s'aperçoit qu'on n'a aucun moyen de défense. L'État a imposé avec toute sa force. Ouais. Bon, on verra.
Imposer l'implantation du méthanier et de l'incinérateur.
Tout à fait. Tout à fait. À cette époque-là, on a été faire porter à chacun des hauts fonctionnaires ayant travaillé sur le dossier un document par huissier, leur indiquant que si, par malheur, il y avait effectivement un problème grave de santé des populations dû à cette implantation-là, ils ne pourraient pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Ça leur a pas vraiment plu. Mais bon. Moi, je suis né ici, je suis attaché à cette terre, je suis attaché à ces paysages. Et effectivement, c'est un vrai dilemme de se dire que peut-être on fait une bêtise de rester là, que peut-être on raccourcit notre durée de vie. Bon, finalement, on se dit, espérons que je passe à travers. Voilà. Parce qu'on est bien ici quand même aussi. Et donc, compliqué. Moi, j'ai un problème de thyroïde, peut-être qu'il vient de la zone industrielle. Je ne sais pas. Bon, on comprend que derrière, il y a des intérêts économiques, certes, mais moi, j'ai l'habitude de dire qu'on veut bien vivre de cette industrie, mais on ne voudrait pas en mourir, en tout cas, pas prématurément.
Bien, allez, je m'arrête, sinon...
Bonjour, j'ai rendez-vous à l'Agence régionale de santé.
Vous présentez la première fois à gauche.
À gauche, merci.
Je ne pouvais pas finir cette enquête sans aller voir les représentants de l'État en matière sanitaire, c'est-à-dire l'ARS, l'Agence régionale de santé. Je ne comprends pas pourquoi l'agence n'a pas fait d'études épidémiologiques et pourquoi elle n'a pas répondu ni aux habitants ni aux élus. J'ai rendez-vous avec Marie-Christine Savaille, directrice de la santé publique et environnementale.
Les études qui ont été réalisées sont des études sérieuses avec des experts dans le domaine de l'épidémiologie.
Donc, à l'époque, le préfet, en 2005, s'adressait aux habitants en disant Il fait bon vivre à Foss, c'est mieux de vivre à Foss que dans les Alpes. Comment vous expliquez qu'on passe alors dans « il fait bon vivre ici à Foss, tout va bien » à « il y a évidemment une activité industrielle qui a des répercussions sur la santé ». Il y a eu quand même un changement.
Si vous voulez, sur... Voilà. Non, je commenterai pas ça parce que vraiment, il y a un travail de fond qui est mené par les représentants de l'État au plan local pour faire en sorte que la situation soit la plus conforme aux attentes de la population quant à la préservation de leur état de santé.
Il a fallu que les habitants se mobilisent parce que les autorités ne leur donnaient aucune réponse à leurs questions. Donc ça s'est passé par un rapport de force.
Si vous voulez, je pense que à cette époque-là, il y a eu une impatience de la part de la population vis-à-vis de l'autorité sanitaire. Il n'y a plus de débat sur ce sujet et de longue date maintenant finalement.
Il y a des débats parce qu'ils ont dû demander une transparence à un État qui ne leur en donnait pas.
Si vous voulez,
Et même des élus, et je pense au maire de Foss, n'a jamais eu de contact, pourtant il a cherché à en avoir, avec l'Agence régionale de santé.
Alors, juste par rapport aux études, ce que...
Ça, vous ne voulez pas en parler. No comment. C'est peut-être qu'à un moment donné, les intérêts économiques de la zone industrielle ont primé.
Oui, c'est un fait. Oui.
Blue skies over my head, give me another reason to get out of bed. Blue skies shining my face, give me another woman to take her place.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, enquête à Foss-sur-Mer, le deuxième volet d'un reportage de Pascal Pascariello, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Jacques Carle, au docteur Vincent Bezin, à René Raymondi et à l'ARS, l'Agence régionale de la santé, et Marie-Christine Savaille. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nous avons un compte Twitter et une page Facebook que je vous encourage à consulter, à partager et à commenter, et que nous regardons évidemment, bien sûr, régulièrement.